Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et bienvenue donc dans Onde Noire.
Sur Agora Côte d'Azur.
Voilà, on va enchaîner directement en parlant des romans qui ont attiré, non pas notre regard, hein, parce qu'on a posé longtemps notre regard dessus, mais disons qui ont suffisamment attiré notre attention pour vous les conseiller beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, Jacques, tu commences par un gros pavé.
Oui, il a effectivement attiré mon regard longtemps parce qu'il fait près de 700 pages. Donc, ce roman, c'est Punctu Segundo de DOA qui est publié à la série Noire. Donc, ce Punctu Segundo fait suite au Punctu Primo qui était paru en 2015. Il raconte la suite de cette histoire qui était donc entamée avec ce premier tome. Alors, je vais un bref rappel. Le Punctu ou Punctu, ça, je ne sais pas exactement en langage pachtoun, parce que je ne parle pas vraiment bien le pachtoun.
C'est un tort.
Les pachtouns, c'est le peuple fondateur de l'Afghanistan. Donc, le Punctu, ça fait allusion à l'honneur personnel, familial et tribal. Et en gros, ne pas en avoir, c'est un signe d'infamie. Et c'était fortement traité dans le premier roman, et effectivement dans celui-là aussi. Il faut tout de suite préciser que même si ce n'est pas impossible, il est quand même assez difficile de lire ce volume sans avoir lu le précédent. Même si Dewa fait un rapide résumé en début de Segundo, il vaut quand même mieux avoir lu Primo.
Il est paru en poche ou pas, Primo ?
Pas encore.
Pas encore, c'est dommage.
En fait, il formait un tout séparé, qui a été séparé en deux volumes pour des raisons d'édition, parce que c'est pas vraiment ni évident de fabriquer et de vendre un livre de 1300 et quelques pages. Le second tome a toujours pour fond la guerre d'Afghanistan. Nous sommes en 2008, après l'élection d'Obama. Le cher Ali Khan Zadran cherche toujours à venger son honneur et la mort de sa famille tuée par un drone des croisés, comme il dit. Mais le temps et la fatigue a émoussé sa détermination. Il y a toujours les racailles paramilitaires américaines, sont toujours là, mais Dewa les délaisse un petit peu dans ce roman, comme s'il les laissait se débrouiller tout seul. Et ils le font très bien. Il va recentrer son histoire en France, essentiellement sur la journaliste Beur Amel Balimer et sur Alain Montana, une espèce de barbouze multicanal, pardon, qui est au courant de tous les coups.
Quand elle a plusieurs, ouais, ça fait des canaux, hein.
Qui est au courant de tous les coups et qui est désormais au sommet de la hiérarchie des services secrets. Et il va y avoir aussi un revenant, Lynx, un des citoyens clandestins qui ressurgit dans cette aventure. Il faut bien dire, un peu malgré lui.
Alors, il faut peut-être un petit peu expliquer à nos auditeurs. Citoyen clandestin, c'est...
C'était un des premiers...
C'est pas du tout le hanté primo de Punctu, mais c'était un des premiers...
Premier roman de Dewa, voilà, en 2007. Donc, en fait, bon, ça serait un peu vain de vous raconter tout ce roman de 700 pages, qui est un roman noir copieux, à l'écriture vraiment magistrale, à l'intrigue parfaitement maîtrisée, où l'accumulation de détails, d'informations sert à chaque page le récit. On peut passer des montagnes glacées de l'Afghanistan à la rue Rivoli à Paris, dans le même chapitre, dans la même page parfois, sans que cela soit, ne serait-ce qu'un instant, sans qu'on soit vraiment perdu. Les personnages, certes, sont de papier, mais ils existent vraiment. Ils sont de chair et d'encre, en quelque sorte. On les suit comme des familiers, sans pour autant les aimer, les excuser ou les plaindre. On vit avec eux au plus près, dans le désert, dans les avions, dans les hôtels ou dans les salons parisiens. Même dans les chambres, parfois. On peut quelquefois prendre fait et cause pour l'un d'eux, puis l'abandonner, car Dewa, qui manipule tout ce monde, donc tous ces personnages, et peut-être un peu le lecteur, tel un marionnettiste... virtuose, ben Dewa a décidé de nous faire changer d'avis sur cet homme ou sur cette femme. Il n'hésite pas non plus à se séparer de certains de ses personnages. Ben, on est justement en guerre, et à la guerre, ben, y a des morts. Alors une balle d'AK-47 suffit souvent à éliminer un type qu'on connaît depuis 800 ou 900 pages. Bon, et généralement, les AK-47, en plus, ils en tirent plusieurs d'un coup, donc on est sûr de ne pas rater sa cible. Il y a des ruptures dans le récit, tant dans la géographie que dans la narration, qui est parfois lyrique. Et en fait, ça rend la lecture complètement addictive. Les parties du roman qui, elles, se déroulent en France sont plus froides, plus mates, plus glacées. Bizarrement, parce qu'il fait beaucoup plus froid en Afrique ou au Moyen-Orient. Malgré, d'ailleurs, certaines scènes de sexe assez hautes en France. Alors, au Moyen-Orient, ou en Afrique, puisqu'il y en a, ça se passe dans, aussi dans ces deux continents. L'émotion, par contre, elle, est beaucoup plus palpable. Il y a une espèce de poésie, il a vraiment une poésie des Pachtounes, d'Ewa, qui nous rend vraiment très bien.
Et qui apparemment t'émeut.
Voilà. Et donc, au bout de ces presque 700 pages, D.O.A. clôt, tu as commencé à en parler, un cycle commencé en 2007 avec Citoyens clandestins. Donc plus de 2300 pages auparavant. Même si, parce que tous ces quatre romans forment un cycle. Donc il y avait Citoyens clandestins, Le serpent aux mille coupures, Pulctu 1 et Pulctu 2. Et tout ça, ça fait un cycle. Et il le clôt à la fin de ce Pulctu Secundo, sauf peut-être que dans les dernières lignes, il se laisse une possibilité de continuer ou d'entamer un autre cycle. Mais en fait, il va peut-être changer complètement de sujet.
Ce qu'il avait fait d'ailleurs entre les deux premiers, enfin entre Citoyens clandestins, Serpent aux mille coupures,
ouais, avec un roman qu'il avait écrit avec
Dominique Manotti.
Voilà. Alors, juste quelques infos pratiques. Pour Noël, Gallimard avait sorti un coffret reliant avec les deux Pulctu. Donc 1500 pages, et aussi un gros folio avec Le citoyen clandestin et Le serpent aux mille coupures qui inaugurait le cycle. Et si jamais vous hésitez à cause du poids, ils existent tous en version numérique, c'est peut-être un bon moment de se lancer dans la liseuse.
Donc on va rappeler Pulctu Secundo, alors bon, on connaît, moi non plus je ne connais pas le Pachtoun, hein. D.O.A. à la Série Noire, évidemment, chez Gallimard. Le temps passe, il est peut-être temps d'écouter un petit morceau de musique.
Et bien donc là c'est D.O.A. qui a choisi quasiment, puisqu'à la fin du roman, il met la playlist de ce qu'écoutent ses personnages et de ce qu'il écoute lui un petit peu. J'aurais pu mettre Interpol comme dans un des premiers romans, mais là j'ai choisi, c'est rare, un peu de chansons françaises.
Oui, c'est assez rare dans notre émission.
C'est presque tout au début du roman. Et c'est Alain Bachung qui chante Madame Rêve, donc c'est un extrait de l'album Osez Joséphine.
Et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
Voilà, c'était donc Sans Transition, Madame Rêve. Et tu l'avais choisi pour le livre de D.O.A. Pictu. Mais en fait, je me rends compte que le style et l'ambiance va très bien au roman dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Cet été-là. C'est un roman de Lee Martin, je crois un nouveau venu dans la sphère polar. Et c'est aux éditions Sonatine. Et c'est un roman américain qui est traduit par Fabrice Pointeau. C'est un roman au ton étrange, porté par en fait plusieurs voix, c'est moi qui perds la mienne. Trois voix en gros, trois voix intérieures, trois souffrances, trois culpabilités pour se souvenir d'une soirée tragique, un soir d'été, 30 ans plus tôt. Le soir où Cathy, à l'aube de son adolescence, partit en vélo pour rendre des livres à la bibliothèque, pour n'en jamais revenir. Une des voix est celle de son frère Gilles, plus âgé. Une famille sans histoire, la famille de Cathy, une des familles les plus aisées de la ville. Le père, Junior, est à la tête de la verrerie, il en a hérité, d'où son nom, Junior, évidemment. On imagine sa femme, Patsy, mère au foyer, attentive, tirée à quatre épingles dès le réveil. Et puis, Gilles, le fils de famille, sur qui porte beaucoup d'espoir, n'est-ce pas? Mais c'est de sa faute si Patsy, la jeune Patsy, part à vélo ce soir du 5 juillet. Il l'a dénoncée méchamment au dîner. Elle a oublié de rendre les livres à la bibliothèque. Évidemment, depuis, il s'interroge et invoque continuellement ces jours fous où plusieurs vies basculeront. Autre vie qui va basculer, celle de Mr. Deez, un professeur de mathématiques, terne, poussiéreux. Il donnait des cours à Cathy et enviait secrètement cette famille modèle, symbole de l'American Dream. 30 ans après, il se confesse au lecteur de toutes les vicissitudes, de toutes les solitudes, de la lâcheté d'un homme ordinaire et surtout de la culpabilité d'un pédagogue attiré irrésistiblement par son élève au point de voler une photo. Mais jusqu'où peut-on aller? Troisième voie, son voisin. C'est comme ça d'ailleurs que les fils se tissent. Le voisin Raymond R. Appelons-le Raymond R. C'est pas un homme ordinaire. Dès ses premières phrases, on sent les angoisses, ses culpabilités. Vous aurez compris que c'est un roman bâti là-dessus. Mais aussi les failles. Lui, il habite avec sa femme Claire. Claire écrit C-L-A-R-E. Hein. On est aux États-Unis. Il habite de l'autre côté de la ville, dans le quartier des déclassés. Celui où, un détail m'a frappé, les ceintures des robes sont en carton, recouverts de tissu. Ça fait moins cher. Et quartier où l'on accumule les hontes, les humiliations. De temps en temps, on a aussi la voix de Claire, justement, la femme de Raymond. Une femme simple, une femme transparente. Elle ne voit qu'une chose, elle. Qu'un homme ait pu s'intéresser à elle. C'est une veuve que plus personne n'invite, parce que dans le couple, on invitait lui, on n'invitait pas elle. Et depuis, elle est transparente. Et tous les deux, le soir, Raymond et Claire, ils jouent le soir, ils n'ont pas d'argent, alors ils jouent, dis-moi, c'est quoi ton paradis? Le paradis, c'est un garage dans la maison, c'est un Porsche devant la maison. Ils vont pas loin, leur paradis. C'est un roman polyphonique, certes, mais en réalité, c'est pratiquement un face-à-face, presque une lutte des classes. D'un côté, ceux qui ont de l'argent, de l'influence, Junior et sa famille. De l'autre, Raymond, Claire, Monsieur Diz. Cette classe de celles qui ne possèdent pas assez d'argent, pas assez d'influence, ou trop de honte. Alors, je cite, ils tentent toutes sortes de combines pour établir l'équilibre, pour mettre les briques et les joints d'aplomb. Ça, c'est Raymond qui l'explique. Lui qui, enfant de pauvre, ne pouvait manger à la cantine. Et, je recite l'auteur, manger un sandwich à l'œuf frit dans un couloir sombre pendant que le tuyau de chauffage lui goûtait sur la tête. Quand on a subi ces humiliations, de quoi est-on capable quand on est adulte? En fait, dans ce roman, il n'y aura que des perdants. La souffrance des uns et des autres, n'effaçant pas, ne justifiant pas jamais les fautes, les violences, voire même les vilainies. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis assez enthousiasmée, c'est une jolie découverte. C'est un premier roman, j'ai déjà dit, traduit pour cet auteur américain. Je n'ai pas vu s'il en avait fait d'autres qui seront à traduire. C'est une écriture qui se met à l'aune des sentiments de ses personnages, qui ne montre jamais la lumière crue ou l'obscurité complète, mais les ombres, les demi-teintes, qui rendent bien compte, en gros, des tourments de chacun. Non pas, comme on peut le croire, alléché par un quelconque oubli du temps qui passe, mais au contraire dans son roman, alourdi du poids des souvenirs, puisque, encore une fois, c'est une sorte de confession, 30 ans après la disparition de Patsy, et je vous assure que jusqu'au bout, on ne sait pas si c'est l'une des voix qui est coupable ou si ils vont, dans leur confession, amener une autre personne qui serait coupable de la disparition de Patsy. Voilà, donc je rappelle, Lee Martin, un nouvel auteur américain, traduit par Fabrice Pointeau. C'est un roman qui s'appelle « Cet été-là » et c'est aux éditions Sonatine. Une jolie couverture avec un bout de bicyclette, hein, la bicyclette de Patsy, dans un feuillage assez mystérieuse. On se retrouve dans la deuxième partie d'émission, après quelques informations. À tout de suite.